Bonsoir, il est difficile de se faire une idée précise de l'état des services d'urgence en France. Parce qu'on voit des images à la télé, des brancards entassés dans les couloirs, on a tous vécu ou entendu le récit d'une nuit passée aux urgences dans le chaos et le sentiment d'abandon. On lit des expressions qui vont toutes dans le même sens pour décrire la situation aux urgences. Explosion, à bout de souffle, engorgement, saturation, tension extrême, bagarre même parfois. Et puis, au terme d'un week-end au cours duquel elle a visité plusieurs services d'urgence dans le pays, en pleine canicule qui n'arrange évidemment rien, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, semble décrire une situation sous contrôle à l'instant T, où la tension ne serait qu'exceptionnelle.
Il y a des tensions dans certains hôpitaux. Je le répète aujourd'hui, 18 hôpitaux sont en tension, sont mobilisés, se sont organisés face à un afflux des urgences. C'est 18 sur les 650 services d'urgence en France, donc ça n'est pas massif.
Alors on va essayer jusqu'à 20h par vos témoignages et vos questions de savoir le plus justement, le plus objectivement possible quel est aujourd'hui, au-delà même de la canicule, l'état de nos services d'urgence et de voir comment les restructurer pour davantage de sécurité et de confort, aussi bien d'ailleurs pour les patients que nous sommes tous que pour le personnel soignant. Marc Vermeulen est notre invité en studio. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sapeur-pompier professionnel au grade de colonel et porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Avec nous également Philippe Juvin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député européen, maire Les Républicains de la Garenne-Colombes et chef des urgences à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Et nous sommes en duplex téléphonique depuis Cherbourg avec Maxime Morin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez le centre hospitalier public du Cotentin et vous êtes le secrétaire général adjoint du syndicat 5AS CFDT. Soyez donc tous trois les bienvenus, prêts à recueillir vos témoignages, témoignages de patients passés par les urgences, témoignages si vous travaillez dans ces services et bien sûr vos questions au 01 45 24 7000. Soyez les bienvenus.
Arnaud Bousquet, le téléphone sonne.
On vient de l'entendre avec Sébastien Léas de Météo France. L'épisode de canicule doit se terminer dans les prochaines heures partout en France. Est-ce qu'on peut commencer, messieurs, par tirer un premier bilan? Comment nos urgences en général et vos urgences en particulier à Paris, à Cherbourg, ont géré la situation? Maxime Morin, à Cherbourg, déjà un air peut-être un peu plus frais qu'à Paris.
L'épisode de canicule qui touche toute la France, on le voit tous les jours à la météo, épargne quand même les côtes de la Manche. Et donc, en ce qui concerne Cherbourg, depuis une quinzaine de jours, même si le temps est tout à fait intéressant, on n'a pas de surcroît d'activité qui serait lié à cet épisode de chaleur, même si on est très vigilant, notamment pour les plus âgés, à leur trouver des solutions. On en a quelques-uns qui sont venus, évidemment, mais pas d'impact particulier lié à la canicule. Cette particularité est présente à Cherbourg.
Philippe Juvin, Paris, les urgences de Georges Pompidou. Est-ce que la situation était plus tendue qu'en temps normal, hors canicule?
Oui, la situation était plus tendue en ce qui concerne les personnes âgées, qui très clairement étaient beaucoup plus nombreuses aux urgences, présentant des décompensations de leur état pathologique chronique souvent, des difficultés pour trouver des lits pour ces personnes âgées. Ce qui nous a un peu sauvés dans cette affaire, c'est que c'est survenu dans la première quinzaine d'août, qui est traditionnellement pour les hôpitaux parisiens une période plus calme. Mais c'est vrai, il y a eu un surcroît d'activité sur les personnes âgées.
Chez les pompiers, Marc Vermeulen, davantage d'appels, des difficultés peut-être d'aiguillage sur les services d'urgence?
Donc effectivement, on observe également au niveau des sapeurs-pompiers une sollicitation assez importante qui est pas forcément liée à des états liés aux températures, mais également aux multiples activités qui sont faites lorsqu'il fait beau et sur lequel effectivement c'est porteur d'une sollicitation supplémentaire. Fort heureusement au niveau des feux de forêt, pour l'instant on est sur un constat avec des surfaces brûlées qui sont minimes par rapport à l'année dernière. On est à moins de 2500 hectares de brûlés alors qu'à la même époque l'année dernière on était à 11 800, mais on reste vigilant.
Avant de retrouver Majid et Bastien qui patientent déjà au standard, je voudrais quand même, messieurs, que vous reveniez, que vous réagissiez à ce que vous entendez. Les ministres, qu'il s'agisse d'Agnès Buzyn ou de Benjamin Griveaux, ils déclarent qu'il n'y a pas de tension générale dans les services d'urgence face à la canicule. Est-ce que vous estimez que là, on joue sur les mots? Parce qu'effectivement, il n'y a pas de tension face à la canicule, mais il y a tension tout court. Philippe Juvin.
Mais non, mais la réalité, elle est simple. C'est que moi, je fais ce métier maintenant depuis une quinzaine d'années. Et il y a une quinzaine d'années, les urgences étaient en tension essentiellement au moment de la canicule en été et de la grippe en hiver. La nouveauté, depuis maintenant plusieurs années, 3-4 ans, c'est que les urgences de France sont en tension en permanence. Pourquoi? D'abord parce que la population a augmenté, elle est plus malade, elle est plus âgée, et il y a moins de médecins qu'à 10 ans. Quand vous regardez en 2017... versus 2007, il y a moins de médecins alors que la population augmente. Et la conséquence de ça, c'est qu'on a observé en 20 ans un doublement du nombre de patients qui sont venus aux urgences. Eh bien, il ne faut pas se faire d'illusions, ça va continuer à augmenter, ne serait-ce que parce que les malades n'ont pas d'alternative. Donc les urgences sont en tension désormais toute l'année, c'est ça la réalité des choses.
Même chose à Cherbourg pour vous, Maxime Morin, le centre hospitalier public du Cotentin. Il n'y a pas de tension face à la canicule, mais une tension toute l'année.
Alors, je partage en grande partie ce qui vient d'être dit par le professeur Juvin. C'est vrai qu'on est aujourd'hui sur des activités, par nature, les activités d'urgence sont pas toujours prévisibles et on a les creux et les pics jamais tout à fait exactement comme on les imagine et on croit. On essaie de s'organiser pour pouvoir y répondre, mais il est vrai qu'on a maintenant, alors on peut parler de tension ou pas parce qu'on essaie de s'organiser pour y répondre, mais des flambées, des moments difficiles qui interviennent presque à tout moment dans l'année et qui sont d'autant plus difficiles à organiser, sachant que, évidemment, il y a quand même encore des pics particuliers ou des pathologies particulières plus présentes en hiver, et que l'été s'ajoute à ce qui vient d'être dit sur la situation des patients en général et des urgences en général, les congés pour tout le monde à organiser, aussi bien à l'hôpital, mais aussi en ville, avec, et j'ajouterai ça parce qu'on connaît de manière très frappante en Normandie, une baisse des capacités des médecins de ville, des médecins ambulatoires, des médecins traitants à recevoir les patients, particulièrement à ces moments-là, mais parce que leur nombre et leur disponibilité, en général, tout au long de l'année, baissent.
Colonel Marc Vermeulen, chez les pompiers, tension là aussi toute l'année, c'est pas un mythe ?
Non, on fait partie de la même chaîne de secours, donc les mêmes causes produisant à peu près les mêmes effets. Aujourd'hui, le métier de sapeur-pompier a forcément évolué. La sollicitation, on prenait une référence sur il y a 20 ans, le nombre d'interventions des sapeurs-pompiers, c'était 3,4 millions d'interventions. Aujourd'hui, on est à 4,5 millions d'interventions. Il y a 20 ans, le secours d'urgence aux personnes chez les sapeurs-pompiers, c'était 54%. Aujourd'hui, c'est 84%. Donc ça veut dire qu'en France, un sapeur-pompier passe plus de temps dans une ambulance que dans un autre engin de secours. Donc effectivement, le fait que les différents facteurs qui ont été évoqués, le vieillissement de la population, les déserts médicaux, la difficulté de la permanence de soins, puis je dirais également certaines politiques, notamment le maintien à domicile, ce qui fait qu'à un moment donné, le réseau de proximité ne répond pas forcément, et ce sont les services d'urgence qui sont appelés dès lors où les gens sont désorientés.
Et on va rappeler ce chiffre, hein, aux urgences, en 20 ans, nombre de passages chaque année multiplié par 2, on est passé de 10 à 20 millions de visites aux urgences chaque année dans les hôpitaux en France. Majid nous appelle depuis le Val-de-Marne. Soyez le bienvenu, Majid. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Nous écoutons. Vous êtes un professionnel.
Oui, donc je suis praticien hospitalier dans un hôpital de Val-de-Marne, un hôpital de périphérie. Et cette question de l'embouteillage aux urgences me préoccupe, puisque moi je travaille dans un service de médecine, donc j'assure l'aval des patients qui s'accumulent aux urgences. Et je dois dire que j'ai fait pas mal de gardes dans le passé, et je me souviens, j'ai l'impression que le problème n'est quand même pas tout à fait nouveau. Moi, il y a 15 ans, quand je faisais des gardes, elles étaient déjà infernales à Eubonne, mais que sur toutes ces années, on a vu un certain nombre de changements, avec effectivement des patients de plus en plus lourds, de moins en moins de médecins, des cabinets dont l'ouverture a bien changé, le mode de fonctionnement a bien changé, avec la disparition de la consultation libre, avec des consultations sur rendez-vous, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est très difficile pour un malade de trouver une consultation chez un médecin quand survient un problème urgent. Et donc, évidemment, les urgences sont une solution de recours assez facile. Des collègues et des confrères qui ont aussi changé, puisque autrefois, il y a pas si longtemps que ça, on était quand même plus serein dans nos modes de fonctionnement et sans doute qu'on n'était peut-être pas obligé, on avait moins cette pression sur la tête de l'obligation de moyens qui oblige aujourd'hui, qui fait que beaucoup de nos jeunes collègues font beaucoup d'examens, ce qui fait que ça ralentit sans doute un peu plus les prises en charge en urgence, mais on les comprend, parce que dans tout ce flux de malades, pour faire le tri, il faut être solide et avoir des arguments pour pouvoir rediriger les patients. Alors je pense aussi qu'il ne faut pas regarder simplement que la problématique des urgences, parce que à mon sens, c'est la partie émergée de l'iceberg, et l'iceberg, c'est les difficultés, pour pas dire le début de faillite du système hospitalier français, où les problèmes se multiplient. On a d'une part de plus en plus de mal à attirer des praticiens, compte tenu des conditions de travail qui se sont dégradées, avec des spécialités qu'on peut plus recruter, des difficultés à, puisque nous sommes l'aval des urgences, des difficultés à faire sortir les patients des services de médecine, où les patients sont devenus extraordinairement lourds, cumulant les difficultés, ce qui fait qu'ils s'accumulent dans les services, ralentissant ainsi la fluidité de l'ensemble de la filière de soins. Les patients ne peuvent plus passer à l'extérieur parce qu'ils sont trop âgés, trop vieux, trop lourds, trop difficiles à maintenir au domicile. On a un peu de mal à les faire passer dans les soins de suite. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, l'hôpital, c'est de moins en moins de lits. On passe notre temps en collaboration avec nos collègues des urgences à chercher à faire rentrer Paris dans une bouteille avec un chausse-pied parce qu'on ne cherche pas de l'or, on cherche du lit pour placer le malade et que ceci devra quand même avoir une limite.
Merci Majid pour cet état des lieux, pour le coup très concret auquel vous souscrivez, Philippe Juvin. Ça se passe comme ça aussi à Georges Pompidou avec des patients qui arrivent aux urgences et qui de toute évidence ne devraient pas y être.
Écoutez, moi je ne partage pas cet avis selon lequel les patients ne devraient pas y être. Les patients sont aux urgences parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Aujourd'hui, quand vous voulez avoir une consultation rapide d'un médecin généraliste, plus une prise de sang, plus un scanner, plus une radio, plus l'avis d'un spécialiste, il n'y a qu'un seul endroit où vous pouvez avoir tout ça rapidement, c'est aux urgences. Et ce n'est plus en ville, en tout cas pas facilement. Et ça, c'est un élément clé. Ça signifie quoi? Que cette fameuse crise des urgences, qui ne date pas d'hier, hein, il ne s'agit pas d'accabler la malheureuse Madame Buzyn, dont on a vu tout à l'heure, la question n'est pas là, c'est que les urgences sont le symptôme d'un dysfonctionnement global d'une chaîne de soins qui va de la ville, y compris la prévention d'ailleurs, jusqu'à l'hôpital et la maison de retraite. C'est ça le sujet. Et si on veut résoudre ces questions, il faudra certes quelques moyens, mais surtout une organisation différente. Je vous donne simplement un exemple sur la question des lits dont notre collègue parlait tout à l'heure. 20% des patients qui viennent aux urgences en France sont hospitalisés, 80% rentrent chez eux. Eh bien, ces 20%-là, il faut leur trouver un lit et c'est une des difficultés que nous avons. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que les lits n'existent pas ? Non, les lits existent, sauf qu'on ne sait pas où ils sont. Le 13 novembre, lors des attentats, je raconte toujours cette histoire, à 20h avant les attentats, on a annoncé que mon service disposait dans l'hôpital Georges Pompidou de 4 lits libres pour passer la nuit, ce qui n'est pas beaucoup. Et quand est arrivée la vague des victimes de l'attentat et qu'il a fallu hospitaliser ces gens, eh bien par miracle, on nous a trouvé plus de 50 lits qui étaient libres. Donc
alors,
ils existaient.
Expliquez-nous le tour de magie, parce que de l'extérieur, on ne comprend pas.
Ce n'est pas un tour de magie, ça signifie qu'aujourd'hui, il y a assez peu d'hôpitaux qui sont capables de vous dire avec certitude combien de lits libres ils ont dans leur hôpital. Alors, par exemple, à la Paix, Martin Hirsch, le directeur général, a mis en place, comme d'ailleurs ailleurs, des bed managers pour essayer d'améliorer cela. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Autrement dit, ce que je veux vous dire par là, c'est que la question des urgences, ce n'est pas qu'une question de moyens. On manque de moyens dans certains domaines, ça va de soi, mais c'est aussi une question d'organisation du système.
Vous le sentez ça au quotidien, colonel Marc Vermeulen, au moment de savoir vers quel hôpital, vers quel service d'urgence transférer tel ou tel patient?
Oui, effectivement, on le ressent. Il y a une forte, très forte sollicitation des centres 15, donc pour certains, en fonction des pics, ont des difficultés à répondre. Ça veut dire que lorsque les sapeurs-pompiers vont vouloir passer les bilans ou lorsqu'on veut vous passer un requérant qui ne justifie pas au départ une demande d'engagement de moyens, il y a un délai d'attente qui est assez important. Ce délai d'attente, il se retrouve également au niveau du service d'urgence. Ça a été dit. Dès lors où en fait on est face à des situations qui sont pas forcément d'une gravité importante, il est logique le fait qu'effectivement il y ait d'autres patients qui passent avant et donc on a des ambulances qui attendent. Tout ça, ça fait que ça diminue notre capacité opérationnelle, notre réponse opérationnelle. Mais il y a un point important en termes d'organisation sur lequel la Fédération nationale est très attachée, c'est le fait qu'effectivement, on évolue vers un numéro d'urgence unique. Aujourd'hui, il y a une multiplicité des numéros d'urgence, police, SAMU, pompiers.
Il paraît qu'il y a 450 sites de réception des appels d'urgence en France.
450 oui, il y en a plusieurs par département, parce que vous avez pour certains, soit départementaux ou interdépartementaux, les centres 15, vous avez un ou deux centres de réception du 17, vous avez également...
Mais c'est inefficace, c'est même dangereux.
Disons, le problème, c'est qu'on peut se retrouver à avoir des gens qui vont sauter d'un numéro d'urgence à l'autre, et qui, au fur et à mesure des questionnements, vont se rendre compte que ça justifie pas forcément l'engagement de moyens, et qui vont adapter leur discours. Enfin, vraiment, l'efficience, ce serait un numéro interservice, qui ne serait pas la propriété des pompiers, bien sûr, mais vraiment un 112 qui permette effectivement d'avoir une répartition et des différentes interventions.
Maxime Morin, à l'hôpital du Cotentin à Cherbourg, la faute à un manque de médecins, un manque de moyens ou un problème d'organisation avant tout?
Alors, il y a plusieurs choses qui ont été dites et sur lesquelles moi je voudrais réagir. Sur la question des lits. Bon, ce qu'on sait, qui est établi depuis maintenant plusieurs années, c'est que la progression des besoins en santé, des demandes de la population, est supérieure aux moyens que les pouvoirs publics, le gouvernement, le Parlement décident d'attribuer à l'ensemble du système. Donc, de toute façon, on a une problématique de gagner en termes de productivité sur l'ensemble du système, de résoudre par l'organisation, par une meilleure efficience, les questions qui nous sont posées. Sur la question des lits, c'est pareil, depuis maintenant plusieurs années, c'est passé d'un gouvernement à l'autre, d'une ministre à l'autre, on nous demande d'aller vers plus de ce qu'on appelle ambulatoire, c'est-à-dire des prises en charge beaucoup plus courtes, ramenées pour les patients pour lesquels on le peut à la journée, et ceci entraîne une réorganisation des lits et une baisse des lits, parce qu'effectivement, quand on fait plus d'ambulatoire, donc plus de prises en charge à la journée, on a moins besoin de lits d'hospitalisation complète. Ça crée du coup une tension effectivement sur les services d'urgence qui eux ne sont pas demandeurs a priori de ce type de lit, ou s'ils pouvaient y accéder, ça serait forcément dans un système de programmation à distance courte, la veille pour le lendemain, et c'est une question organisationnelle qui existe et qui n'est pas réglée, qui n'est pas simple à régler dans les établissements. Sur la question que vous évoquiez tout à fait à la fin, la problématique qu'il y a en plus dans un certain nombre de régions, la Normandie, Cherbourg, le Cotentin, la Manche en font partie, c'est effectivement qu'on a une problématique de ressources médicales. Nous sommes dans la difficulté pour avoir la totalité des effectifs médicaux d'urgentistes remplis dans beaucoup, beaucoup de services d'urgence en France. On fait appel à des remplaçants, notamment à l'intérim, et on en est à un point que, quand on voit le nombre de postes médicaux vacants dans les services d'urgence, qu'on se demande même si la ressource au niveau général, au niveau global du territoire, est suffisante aujourd'hui pour remplir toutes les missions qu'on a et tous les postes qui sont vacants dans l'ensemble des services d'urgence. Donc cette question de la tension sur la ressource médicale, elle est effectivement un de nos aspects quotidiens qui en plus participe à la dégradation des conditions de travail, parce que ça n'a pas été évoqué par le premier auditeur qui a appelé pour témoigner, mais il n'est pas invraisemblable de penser que dans les services dans lesquels il a travaillé, il n'y avait pas l'effectif total, ce qui fait qu'on demande aux médecins de travailler plus que la norme, et on les remplace dans des conditions qui ne sont pas toujours excellentes.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
Et à 19h35, je vous propose le témoignage de Bastien qui nous appelle depuis le 18e arrondissement de Paris. Bonsoir Bastien.
Bonsoir. Donc je m'appelle Bastien, je suis infirmier aux urgences d'hôpital Lariboisière de nuit depuis plus d'une dizaine d'années. Et je vais juste faire une petite parenthèse par rapport à ce qui a été dit post-attentat, comme quoi on avait trouvé des lits et tout. Mais ça prouve justement le côté très humain du secteur hospitalier qui est prêt à se mettre, faire du surcroît de travail lors de situations extraordinaires. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des places. C'est-à-dire que soit il y a des places, oui, mais il faudra mettre des infirmiers en plus, parce que le problème aujourd'hui, il est là, c'est les effectifs. Donc nous, aujourd'hui, les revendications par rapport à Lariboisière, je pense que beaucoup d'urgences se joignent à nous, c'est qu'il y a un manque de personnel. Donc soit aujourd'hui c'est un choix sociétal, est-ce qu'on accepte que les urgences soient un phare dans la nuit, parce que c'est exactement ça, les gens quand ils sont virés de chez eux, la précarité, les maladies qui vont augmenter, tropicales, parce qu'avec la chaleur qui augmente, on va être la pollution et tout ça. Donc il y a plein de situations qui vont se retrouver aux urgences. Et aujourd'hui, est-ce qu'on est on veut faire une politique où les urgences c'est un point central? Mais là, du coup, on regroupe une polyclinique forte, des pompiers aussi, je voulais parler des pompiers, parce que je vous rappelle quand même que la brigade fait des gardes de 72 heures. Donc physiquement aussi, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir aussi ça? Parce que donc tout le monde, avec une équipe à flux tendu, où les gens ne peuvent pas partir en vacances, où ils font des heures, on leur demande de travailler en 12 heures, alors que c'est pas tellement légal, ils travaillent le soir, ils reviennent le lendemain matin. Voilà, ils n'ont pas de vie de famille, ils peuvent pas prévoir ce qu'ils vont faire dans deux week-ends parce que ça se trouve ça va être annulé. Pour prendre leurs vacances, c'est compliqué. On leur reproche d'être maman ou voilà. Donc il y a plein de choses qui vont pas. Et moi, ce que je reproche, je veux pas culpabiliser Madame Buzyn, mais j'ai pas l'impression qu'elle entende. C'est pas d'aujourd'hui le problème. Sauf que ces secteurs-là, tout ce qui est social et médical, on est toujours dans la. On peut pas faire grève. Si on fait grève, c'est au détriment. Si on commence à ralentir, c'est au détriment des patients. Donc voilà, nous on a des solutions. Si Mme Buzyn est prête à nous recevoir, on a des solutions, parce que le problème de Laval, est-ce qu'on continue à fermer des lits? Comment on fait pour... nous on est en surplus, 192% de personnes qui stagnent aux urgences parce qu'il n'y a pas de lit en aval. Et en aval, comme disait le, je ne sais plus quel docteur, ils disent aux gens, au lieu de rester que 3 jours, finalement, il faut sortir au bout de 2 jours. Donc ces gens-là, ils vont à la maison trop tôt. Donc ils reviennent aux urgences. Donc c'est un cercle
vicieux avec une accumulation de tensions et de fatigue. Merci Bastien pour votre témoignage. Lariboisière, c'est un hôpital dans le 10e arrondissement de Paris où certains jours le délai d'attente aux urgences oscille entre 6 et 10 heures et toujours à Lariboisière pendant les vacances, on ne remplacerait qu'un agent en vacances sur 2 et on l'entend hein, dans le témoignage de Bastien. Le personnel est en permanence au bord du burn-out. C'est quelque chose de général, Philippe Juvin.
Oui, enfin, il y a plusieurs très malheureuses affaires partout sur le territoire de personnel dans les hôpitaux en général, dans les urgences en particulier, qui sont effectivement au bord du burn-out. Et je pense que tant qu'on n'aura pas compris que le monde a changé et que les urgences sont désormais à la fois le point d'entrée à l'hôpital, quand votre médecin décide de vous hospitaliser, c'est très rare qu'il vous envoie dans un service. En fait, il vous envoie aux urgences. Et c'est aux urgences de se débrouiller. Et c'est comme ça que ça se passe. Et quand on n'aura pas compris que de plus en plus va y avoir du monde aux urgences, parce que c'est le système qui veut ça, dans le 15e arrondissement de Paris, je crois que la médiane d'âge des médecins de ville, c'est plus de 55 ans. Ça signifie la moitié des médecins de ville ont plus de 55 ans. Ça signifie que dans 10 ans, ils seront à la retraite. Et donc, on aura moins de médecins, encore moins de médecins, et il y aura encore plus de patients aux urgences. Donc, quelles sont les solutions? C'est probablement, effectivement, plus de moyens en certains endroits. Mais encore une fois, j'insiste, je pense qu'on peut aussi modifier nos manières de travailler. Moi, je crois particulière qu'il faut se fixer des objectifs. 0 patient sur un brancard la nuit. Il faut qu'on réfléchisse également à la création de services d'urgence spécifique pour les personnes âgées. 40% des transferts des maisons de retraite médicalisées vers les urgences, dès qu'il y a un petit problème, on les transfère aux urgences, sont des transferts qu'on pourrait éviter s'il y avait un encadrement médical dans les maisons de retraite. Ben ça, il faut le prendre en compte.
0 personne sur les brancards la nuit, c'est un objectif qui est quand même audacieux, parce que sur le premier trimestre, on estime que 100 000 patients ont dormi sur des brancards, faute de lits dans les hôpitaux.
Mais je pense que ça doit être un objectif et que cet objectif doit être publié. Vous savez, je crois beaucoup à la publication des résultats. Quand vous publiez vos résultats, eh bien, du coup, vous obligez à vous améliorer. Je vous donne un autre exemple. La fracture du col du fémur, qui est une fracture banale chez les patients âgés. C'est une fracture grave parce que si vous ne l'opérez pas dans les 48 heures, eh bien les patients font plus de complications. Eh bien, le jour où vous exigerez que les hôpitaux publient leur délai d'opération des fractures du col du fémur, la rendent publique, vous verrez, eh bien, l'accueil des personnes âgées se fera mieux dans les hôpitaux.
Donc, rendre public
des résultats.
Les résultats,
exactement,
une espèce de
pertinence des soins.
Objective, certification.
Mais aussi, probablement, modifier nos pratiques. Je pense qu'il faut donner, par exemple, aux infirmiers des rôles qu'ils n'ont pas aujourd'hui et qu'ils feraient très bien.
Maxime Morin, pour le Centre Hospitalier Public du Cotentin, à Cherbourg. Vous sentez que la marmite est en train de bouillir chez le personnel, que la pression monte et qu'on va vers une explosion?
Alors, à l'évidence, le système hospitalier, comme ça a été décrit par plusieurs interlocuteurs ou intervenants, est sous tension et depuis plusieurs années, comme je le disais tout à l'heure, on fait des efforts au plan économique très importants qui nous sont demandés par les pouvoirs publics de manière tout à fait légitime puisque c'est eux qui décident de la politique de santé, c'est eux qui décident aussi les moyens qui y sont attribués. Beaucoup d'acteurs, et parmi les directeurs, et le 5A-CDT en fait partie, considèrent effectivement qu'on commence à arriver au bout de ce chemin et qu'il faut reposer un certain nombre de questions, pas seulement, comme ça a été dit, sur la question des moyens, mais là, en ce moment, ce qui nous est demandé en termes d'efforts économiques devient de plus en plus difficile à assumer. Dans un cadre et dans un contexte qui a été décrit, c'est-à-dire que les urgences sont effectivement autant et plus sans doute un symptôme du système qu'une pathologie propre, au sens où ils accumulent les contraintes de l'extérieur. Alors notamment, on l'a évoqué déjà, la question de la médecine de ville, et c'est très important de réévoquer ce point. Pourquoi? Parce que, bien entendu, les gens qui viennent aux urgences, entre guillemets, sont tous légitimes, en tout cas tant qu'on ne sait pas pourquoi ils y sont venus. Après, quand on fait les analyses, on se rend compte qu'effectivement, une partie des prises en charge qui sont assurées aux urgences pourrait l'être auprès d'autres acteurs de santé, et notamment des acteurs de ville. Donc il faut évidemment s'interroger sur pourquoi c'est pas fait, et puis reprendre, parce que la grande difficulté des hôpitaux aujourd'hui, maintenant, c'est que quand les médecins traitants sont en difficulté à l'extérieur, en nombre, en disponibilité, en capacité d'accueillir les patients, ça pose des problèmes à tous les niveaux de la chaîne. Avant, en amont de l'hôpital, en amont des urgences, mais aussi, comme l'évoquait le premier intervenant, quand on veut faire sortir les patients. Or, de toute façon, il faudra à un moment ou à un autre faire sortir les patients, et les patients, et je pense que ça, on est assez nombreux à le penser, sont de toute façon mieux chez eux quand on a fini la prise en charge que à faire des présences et des durées de séjour au-delà du nécessaire à l'hôpital. Donc ça, c'est un point très important. Et un dernier point très important, moi je voulais évoquer simplement un élément parce que je pense qu'effectivement sur donner des informations publiques, c'est également un point très important. On parle beaucoup du temps d'attente. Alors dans le temps d'attente, il y a tout, évidemment, on mélange toutes les situations et certaines situations aux urgences nécessitent un temps long de prise en charge et d'autres devraient pouvoir bénéficier d'un temps plus court. Je rappelle quand même que quand on vient aux urgences, quand un patient vient aux urgences pour des sujets qui pourraient se traiter en ville, encore une fois, on ne le sait qu'après, mais on sait que le volume est très important. Quand vous prenez rendez-vous chez votre médecin traitant, si vous avez encore la chance d'en avoir un ou d'en trouver un, c'est jamais à la minute. C'est ce soir pour demain. C'est, voilà.
Donc, quand le plus temps vous avez un scanner en matière de biologie, santé, etc.,
il existe. Il existe. Par contre, ce qui est problématique, et donc dans les services d'urgence, il faut qu'on soit capable de l'expliquer. Nous, à Cherbourg, on a mis en place une chose qui est disponible sur notre site internet, qui est une estimation en temps réel du temps d'attente aux urgences. C'est-à-dire qu'avant de venir, si les gens se connectent, ils peuvent savoir si c'est long ou pas long dans les trois principales filières. Ça ne veut pas dire qu'ils viendront pas, ça ne veut pas dire non plus qu'ils sont en capacité de différer leur venue, mais ça veut dire que l'information est là et qu'ils savent. Et elle sort directement du logiciel de prise en charge, donc elle est alimentée par les urgentistes, évidemment, eux-mêmes, par leur activité quotidienne. Ils savent en tout cas à quoi s'attendre sur la durée de la prise en charge. C'est déjà un élément d'information qui paraît très important à donner au public.
Il y a la violence morale, on l'a perçu et on l'a compris avec le témoignage de Bastien, infirmier à la Riboisière. Il y a aussi la violence physique, l'agressivité des patients et leurs accompagnants qui deviennent violents à force d'attendre. Là aussi, c'est une réalité à laquelle vous devez faire face de plus en plus fréquemment chez les pompiers. Marc Vermeulen.
On est confronté effectivement aux mêmes situations sur lesquelles il y a de moins en moins de tolérance, les gens ne sont plus en capacité d'attendre. Ils veulent tout de suite. Et dès lors où, en fait, ils estiment que les services, quels qu'ils soient, n'apportent pas la réponse qui sont attendues, on peut avoir effectivement des réactions violentes. Mais je voudrais réagir sur, effectivement, ce qui a été dit sur le constat que, de toute façon, demain, on n'aura pas plus de médecins qu'aujourd'hui. Ça va prendre du temps et on est obligé de trouver un certain nombre de solutions. Et je pense qu'il faut faire tomber un dogme qui a plus de 40 ans, que tout est médical. Parce qu'au niveau des urgences, ça a été dit, il y a beaucoup de patients qui arrivent au niveau des urgences qui normalement ne doivent pas y aller et qui pourraient faire l'objet d'un tri, en tout cas d'une prise en charge autre part qu'au niveau des services d'urgence. Et je pense vraiment que les infirmiers, et notamment les infirmiers des sapeurs-pompiers, avec les protocoles de soins, peuvent vraiment faire un vrai maillage paramédical.
France Inter, Arnaud Bousquet, le téléphone sonne.
Et parlons aussi des trains qui arrivent à l'heure. Le témoignage de Françoise depuis le département de l'Eure-et-Loire. Bonsoir Françoise, soyez la bienvenue.
Bonsoir. Bah écoutez, moi je voulais témoigner parce que j'ai eu affaire aux urgences plusieurs reprises dans l'Eure-et-Loire où j'ai fait le 112 ou le 15. Chaque fois les pompiers sont arrivés très vite. Et le jour où je suis tombée sur un trottoir, je me suis cassé le col du fémur et le poignet droit. Les pompiers sont arrivés en 10 minutes. J'étais aux urgences très vite. J'ai attendu moins d'une beaucoup moins que ça. J'ai été prise en charge immédiatement. J'ai été opérée le lendemain matin. Et depuis, je n'ai plus aucun problème. Donc, je voulais dire aussi que ces gens sont absolument extraordinaires. Voilà.
Avec un dévouement qui va parfois au-delà des capacités physiques. Hein. C'est pour ça qu'on arrive aussi à des burn-out.
Mais c'est pour ça que malgré tous ces dysfonctionnements qui sont réels, malgré notre inquiétude pour un avenir qui fait que les urgences vont avoir de plus en plus de travail, nous restons optimistes. C'est ça qui nous porte. C'est qu'il y a une bonne volonté aux urgences qui est assez extraordinaire. La société est violente, vous l'avez dit. Mais globalement, aux urgences, on a quand même des gens qui arrivent à s'extraire de cette violence et à donner. Ce sont des gens de bonne volonté. Vous savez, Jules Romain, qui était un auteur du XXe siècle, début du XXe siècle, a écrit un très beau roman qui s'appelle « Les hommes de bonne volonté ». Aux urgences, vous avez des hommes de bonne volonté.
En 20 ans, il y a une centaine de services d'urgence qui a fermé tout de même en France, que ça soit dans le public ou dans le privé. Alors 173 ont au contraire ouvert leurs portes, mais la plupart du temps dans le privé. Est-ce qu'on doit demander à un service d'urgence d'être forcément rentable ? Maxime Morin, à Cherbourg.
J'ai envie de vous dire déjà pour commencer qu'il n'y en a pratiquement aucun qui le sont, parce que le poids, les contraintes d'organiser cette capacité de réaction 24 heures sur 24 avec quand même des effets de flux, hein, c'est-à-dire que bah, quand on étudie ça un peu finement, on se rend bien compte évidemment que à toutes les heures, c'est pas tout à fait les mêmes niveaux d'arrivée, les mêmes niveaux de sortie, mais avec l'incertitude que j'évoquais lors d'une première intervention, c'est-à-dire que c'est une activité qui est par nature irrégulière, même s'il y a des volumes globaux qu'on est capable de dessiner, voilà, il y a des jours en dessous de la moyenne, il y a des jours au-dessus de la moyenne. Donc c'est une activité qui est difficile à organiser par nature et qui n'est pas rentable. Elle est financée, c'est un modèle de financement qui est encore en cours d'évolution, qui repose sur, qui est complexe, il y a du forfait, il y a des choses particulières qui sont financées à côté, il y a une partie qui relève du nombre de passages dans les services d'urgence. C'est par nature compliqué. Mais c'est pas non plus la vocation des urgences. J'ajouterais à ce qui a été dit sur la bonne volonté des professionnels, que ce sont d'abord des professionnels avec des compétences, qu'on s'organise et qu'on forme les gens pour travailler dans ces services, et qu'effectivement, il y a beaucoup de compétences dans tous les services d'urgence de France pour accueillir les patients. J'indiquerai aussi, parce que je vous remercie d'avoir fait témoigner quelqu'un qui était plutôt content, que au regard du volume de passages au niveau national qu'il y a dans les urgences, je pense que presque tous les établissements pourraient faire le constat que je vais faire, on a un niveau de plainte ou de réclamation qui est extrêmement faible. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il n'y a pas de dysfonctionnement, mais ça veut dire que bien souvent, et y compris l'attente hors les cas de violence que vous évoquez et qui malheureusement existent aussi, la plupart du temps, quand c'est bien expliqué, quand on démontre et quand on explique et qu'on communique au patient ce qui se passe et pourquoi ça ne peut pas aller plus vite pour lui, parce qu'il y a d'autres patients plus lourds, plus complexes qui sont là, eh bien, c'est quelque chose qui est compris. On a très peu, au regard, encore une fois, du volume, de plaintes et de réclamations sur ces services-là, beaucoup moins que dans d'autres services hospitaliers, peut-être plus exposés, mais qui sont aussi, en volume, plus confrontés à des questions de plaintes ou de réclamations des patients.
Marc Vermeulen, vous vouliez ajouter quelque chose pour les sapeurs-pompiers?
Oui, je voulais dire, avec les 3,6 millions de victimes qui ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers, il faut savoir qu'au niveau de l'organisation, 80% des sapeurs-pompiers sont des sapeurs-pompiers volontaires. Donc, c'est des gens qui s'engagent, en plus de leur travail, pour effectivement effectuer cette mission au profit de la société. Ces gens qui quittent leur travail, qui quittent leur famille, en plus de leur activité normale, ils ont besoin d'avoir du sens au niveau de leur mission. Donc c'est pour ça qu'une des demandes des sapeurs-pompiers, et je pense que ça répond à un besoin par rapport à la situation actuelle, c'est qu'on aille plus loin au niveau des compétences et des gestes qui vont pouvoir être pratiqués par les sapeurs-pompiers, justement pour améliorer encore la prise en charge de ces victimes et ne pas faire des transports systématiques.
Philippe Juvin, par exemple, la fermeture des services d'urgence la nuit, c'est devenu assez courant, notamment dans des villes de moyenne importance. Est-ce que c'est pour vous une hérésie ou est-ce qu'effectivement, vaut mieux concentrer les moyens sur les grosses structures ou sur les horaires, c'est terrible comme expression, mais de grosse affluence?
Alors, il y a deux choses. D'abord, quand vous n'avez pas de moyens, vous n'avez pas de moyens pour ouvrir la nuit, ben, c'est pas la peine de rester ouvert si vous n'êtes pas capable d'accueillir les patients. C'est malheureux peut-être, mais c'est ainsi. Deuxièmement, on peut regarder ce qui s'est passé avec les maternités. On sait, avec l'expérience des maternités, que les petits services ont un problème de qualité de soins et de sécurité du patient. Par exemple, pour les maternités, moins de 100 accouchements par an mettent en danger les femmes qui viennent d'accoucher parce qu'on sait qu'il y a un taux de complications plus élevé. Non pas que les gens ne soient pas bons, les professionnels ne soient pas bons, simplement comme ils n'ont pas suffisamment d'activité, eh bien, la qualité des soins s'en ressent. C'est probablement la même chose dans les services d'urgence, même si ça n'a pas été montré aussi clairement sur un service d'urgence général. Et donc je pense qu'on va se poser la question, on va forcément se poser la question, d'avoir une concentration de services où il y a toute la panoplie médicale et chirurgicale, et peut-être des services qui seront moins dotés richement avec toute la panoplie et qui permettront d'avoir un maillage du territoire. Mais la proximité n'est pas gage de qualité, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Parfois, c'est même le contraire.
Mais il y a des initiatives intéressantes hein, qui se développent dans certaines petites villes ou villes moyennes, c'est la création de ce qu'on appelle des urgences allégées pour désengorger les hôpitaux. Et je crois que c'est le cas près de chez vous, dans le Cotentin, à Valognes, Maxime Morin. Comment ça se passe ?
Alors effectivement, on a été confronté à cette situation puisque à l'été 2015, le CHPC, donc le Centre Hospitalier Public du Cotentin, qui compte deux sites, Cherbourg en Cotentin et Valognes, a dû fermer le service des urgences de Valognes, tout simplement par manque d'effectifs médicaux, hein, c'est-à-dire que les équipes qui étaient présentes ne pouvaient plus assurer l'ensemble des postes de travail et on était en train d'épuiser ceux qui restaient et donc on courait à la catastrophe. Donc à leur demande et en accord avec eux et bien sûr en travaillant avec l'ARS, on a fait d'abord cette fermeture, puis on a réouvert un dispositif parce que, comme ça a été très bien expliqué, il y a quand même des besoins de réponse à du soin de premier recours. On ne pouvait pas réouvrir le service des urgences à Valognes, on ne l'a pas fait. On a installé ce qu'on appelle un centre de soins non programmé. En gros, c'est du soin de premier recours en médecine et notamment en traumatologie, c'est-à-dire en fait, on a entendu tout à l'heure quelqu'un qui avait chuté, voilà, les chutes, les plaies, voilà, ce genre de choses, qui effectivement est ouvert depuis deux ans et demi maintenant, qui reçoit à peu près 25 personnes par jour sur 10h30 d'ouverture, donc c'est pas complètement inintéressant, et qui a maintenu un dispositif pour les gens qui n'arrivent pas à trouver de solution vers la médecine de ville ou qui veulent pas se déplacer sur Cherbourg en Cotentin pour aller au service d'urgence qui parfois effectivement peut avoir des temps d'attente importants. Donc on y a répondu, ça nous a aussi permis de recruter un médecin non urgentiste pour assurer cette activité, même s'il se trouve qu'en fait c'était quelqu'un qui avait quand même une expérience dans le domaine des urgences, parce qu'on avait mis dans le mode de fonctionnement qu'on ne voulait pas effectivement y voir adresser ou être orienté un certain type de patients pour lesquels les moyens du service, et les moyens sont faibles, hein, puisque c'est un médecin, une infirmière et un agent d'accueil, n'étaient pas compatibles avec un délai de prise en charge sur lequel on s'est engagé à faire quelque chose de court. Et effectivement, c'est aussi un service dans lequel 60% des patients qui y passent, entre l'entrée et la sortie, on leur garantit un passage en moins de 3/4 d'heure, donc quelque chose de vraiment rapide en termes de prise en charge. Donc ça ne sont pas des urgences, ça répond à un besoin évident, et je pense qu'effectivement, comme ça a été dit précédemment, la réflexion qui semble naître au niveau des pouvoirs publics va devoir très certainement interroger ces modalités pour que dans des endroits où on n'a plus les moyens, ressources médicales, moyens humains, moyens économiques, où l'activité est trop faible, peut-être mettre en place ce type de dispositif qui apporte une réponse à la population.
19h54, notre dernier appel ce soir au téléphone sonne nous viendra du département du Gard. Bonsoir Jackie.
Bonsoir France Inter. Bonsoir les invités. Bonsoir. Et bravo pour la qualité de vos émissions. Ma question porte sur la direction globale. Alors, moi je dois féliciter, je connais le CHU de Nîmes pour y avoir été patient. Et toute la difficulté et toute la qualité du travail des hôpitaux qui est absolument incroyable. J'ai habité quelques années à l'étranger. Nous avons un système de santé qui est absolument extraordinaire. Ceci dit, est-ce que la politique globale qui consiste à avoir fait des sortes de grands supermarchés, supermarchés entre guillemets, des grands centres de soins au détriment de la politique de proximité, de soins, est-ce qu'elle n'est pas à revoir globalement, puisque nous avons beaucoup de gens qui vont aux urgences, et notamment le problème des transports des ambulances coûte très cher, et la concentration est un vrai problème, le stress des gens qui sont sur place, qui travaillent, est important, et nous avons une désertification des cellules de soins de santé sur les territoires, comme à peu près dans tous les domaines d'ailleurs, puisqu'on concentre tout dans des grands centres, alors que souvent la santé a besoin d'abord d'un premier contact, d'un premier diagnostic, et ensuite d'aiguiller vers des structures qui sont adaptées et spécialisées si besoin est. On a beaucoup de gens qui viennent aux urgences qui n'en ont pas besoin. Et est-ce que cette politique globale est globalement une politique qui est viable à long terme?
Je voudrais qu'on ait le temps de vous répondre, Jackie, merci de votre appel. D'abord, Marc Vermeulen, est-ce que vous sentez ce stress dont parle Jackie chez les patients qui doivent être transportés sur des distances de plus en plus importantes?
Effectivement, les gens sont quelquefois en difficulté dès lors où on est amené à les transporter de manière assez lointaine, parce que va se poser la question du retour ou de la présence de la famille, et c'est pas toujours des choses qui sont évidentes. Il y a des pistes néanmoins, il y a un certain nombre qui ont été évoquées, il y a les maisons médicales aussi qui peuvent apporter un certain nombre de choses, et je le répète, ça a été dit plusieurs fois, tout ne doit pas aller aux urgences, et je crois vraiment que la réponse paramédicale et le renforcer des sapeurs-pompiers peut permettre de faire un tri supplémentaire.
En guise de conclusion, Philippe Juvin, est-ce que ce système est viable ou est-ce que vous attendez beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup, beaucoup de la réforme du système de santé promis par le gouvernement et par Agnès Buzyn?
Moi, je suis optimiste, donc j'attends toujours des choses positives, des réformes, sinon il ne faudrait pas les faire. Mais globalement, il faut évidemment avoir fait le diagnostic que les urgences, c'est désormais le lieu central de l'organisation du système de soins. Deuxièmement, on s'en sortira si on crée un vrai, véritable parcours médical, c'est que les gens puissent s'organiser entre la ville et l'hôpital, entre l'hôpital et la maison de retraite, entre la ville et la maison de retraite, avec le maintien à domicile. Bref, faire en sorte que les urgences ne soient pas la seule solution. Or, aujourd'hui, c'est souvent la seule solution, c'est le problème des urgences. Donc, le problème des urgences, en réalité, c'est pas celui des urgences, c'est celui de tout le système de soins.
Maxime Morin, directeur du centre hospitalier du Cotentin à Cherbourg, vous en attendez quoi de cette réforme du système de santé ?
Plus globalement, je dirais que le maillage des hôpitaux français est en grande partie historique. Et aujourd'hui, et ça fait des années, des dizaines d'années qu'il y a des réformes et des réorganisations qui sont entreprises, je pense que on a une problématique entre, ça a été dit déjà, hein, entre proximité et qualité. Toutes les études montrent que la concentration dans des grands centres garantit plus la qualité, la sécurité des soins, la concentration des moyens matériels, des équipements, etc., et des ressources humaines, médicales et paramédicales. Donc c'est un avec l'urbanisation et avec le développement de la métropolisation des populations, c'est quelque chose qui est inéluctable. Mais quand on regarde d'autres exemples étrangers, je pense au Canada ou aux pays nordiques, ce qu'on voit, c'est quand il y a cette concentration qui a été faite dans des grands centres, à côté de ça, il y a eu un schéma d'outils de proximité, de centres médicaux dans lequel on rencontre et on trouve les besoins de premier recours, qui a été mené en parallèle et qui permet effectivement de garantir un accès aux premiers soins aux populations. Et c'est sans doute vers ce genre de choses qu'il faut se tourner pour réfléchir.
Merci tous les trois d'avoir accepté ce soir l'invitation du Téléphone Sonne. Et puis plus globalement, merci à travers vous tout le personnel hospitalier et les pompiers pour leur action et leur dévouement au quotidien. Le colonel Marc Vermeulen, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, Philippe Juvin, député européen et chef des urgences à l'hôpital parisien Georges Pompidou, et Maxime Morin, directeur du centre hospitalier public du Cotentin. Ce soir, à Paris, à la technique, il y avait Clément Vullier et Paul Percheron. Clément Nouguier réalisait l'émission. Émission que Justine Bilray, Caroline Baudry et Pierre Goff m'ont aidé à préparer. Merci à tous. Demain, on respire, on prend le large, on voyage. Mais à quoi ressemblent les routards de 2018? Ça sera à partir de 19h15 au Téléphone Sonne. Je vous souhaite une très belle soirée.